bonjour à vous et bienvenue dans ce 18e épisode de Flux URSS. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet éminemment d'actualité, les municipales 2020. Alors, je ne vais pas vous faire bien évidemment le topo de toutes les communes de France. Je pense que si vous avez envie de faire ça, vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Intérieur. Il fait très bien d'ailleurs, même s'ils ont essayé de pipoter les chiffres, enfin de moins de les pipoter, de ne faire qu'ils n'apparaissent pas dans leur globalité pour pas montrer que certains partis bizarrement avaient pris plus une claque que les autres. Mais bon, de toute façon, on va parler de ce qu'on va parler. De toute façon, on va plus parler au global. Donc, on se retrouve juste après un petit jingle. USSR. Alors, je l'imagine, vous le savez déjà, du moins je l'espère, sinon ça veut dire que vous avez dormi dans un congélateur. Nous avons été victimes du coronavirus, donc le Covid-19, tout simplement. Et celui-ci a eu un petit peu la malice d'arriver de par chez nous. Alors, certains diront qu'à partir du mois de novembre et décembre, il y avait déjà des cas. On va dire que la machine s'est un petit peu emballée, du moins en Europe et en France plus particulièrement, au niveau du tournant fin février, début mars, grosso modo. Et donc, le premier tour de ces municipales 2020 a eu lieu le 15 mars 2020. Et on va dire que le confinement, gros confinement partiel, a été décrété un ou deux jours après. Un jour après, je crois. Et tout en sachant que le samedi d'avant, il y a eu énormément de restrictions. C'était par exemple la fermeture des bars et des restaurants ad vitam aeternam, mais aussi que des lieux un petit peu de loisirs. Ad vitam aeternam, d'ailleurs certains viennent que de rouvrir quasiment, hein, parce qu'on est au moment où j'enregistre cet épisode, je suis à la suite du second tour des municipales qui lui a eu lieu le 26 juin, si je ne me trompe pas, oui, qui a eu lieu le 26 juin donc 2020, et on va dire que les cinémas tout ça ne font que rouvrir, les piscines aussi. Tout cela a mis du temps à réouvrir, bon c'est tout à fait normal. Mais on va dire que le choix de maintenir le premier tour à cette date-là, entre un début de confinement et un confinement beaucoup plus sévère, dirons-nous, moi je trouve que ça n'a pas été, c'était pas un marqueur très fort, hein, nos amis les chars gouvernants, parce que ça envoyait un signal de écouter, alors déjà qu'on va vous dire que on avait toujours ce signal de non, n'allez pas dehors vous promener, n'allez pas dans les jardins publics ou sur la plage. Ça a été un petit peu dans la partie déconfinement, hein. Mais n'allez pas vous promener, vous risquez de vous faire covider, bande de mécréants. Par contre, n'oubliez surtout pas d'aller travailler, ça travailler c'est important, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement allés travailler pendant cette période de confinement, cette période de très gros doute, dirons-nous, et c'est vrai que maintenir à cette date-là, donc le 15 mars, les municipales, c'était un choix excessivement hasardeux que François Coq, France Insoumise, relève sous cette phrase d'ailleurs. Le 15 mars dernier, Emmanuel Macron mettait délibérément les citoyens en danger en maintenant et en instrumentalisant le scrutin. Même s'il faut faire attention au discours apocalyptique par rapport à cette date-là, par rapport aussi à d'autres choses qui ont permis de faire véhiculer le virus sur le territoire, il faut quand même noter que ça a été quand même aussi un vecteur assez important, visiblement, de propagation du virus. Donc c'est vrai que de maintenir cela, justement, alors déjà qu'on avait un petit peu, c'est pas une faute, ouais, moi ce que je dis quand même, une faute intellectuelle déjà, on dit ne faites pas ça, mais venez voter, tout en sachant d'ailleurs que je pense, ils étaient excessivement idiots à la rigueur, s'ils n'avaient pas eu cette réflexion, de se dire que le second tour ne pouvait jamais avoir lieu 15 jours après, c'était pas possible, quoi. Au bout d'un moment, quand on confine les gens, ils savaient, au bout d'un moment, ils sont pas levés un bon matin en se disant « Eh, on confine, allez hop, c'est réglé », surtout qu'en Italie, c'était déjà confiné. Il y a un certain nombre de pays, ça avait déjà bien démarré en termes de confinement. Donc c'est vrai, de vouloir maintenir coûte que coûte, c'était un petit peu hasardeux. Derrière est arrivé le fait que du coup fallait le décaler, mais du coup en le décalant, est-ce que ça aurait été constitutionnel ou pas? Et visiblement c'était constitutionnel, parce que le conseil constitutionnel s'est prononcé par rapport à la loi, je crois que c'était par rapport à la loi sanitaire, je crois que c'est même vraiment qui justement a acté ce décalage, et ils nous disent, s'il vous plaît, roulement de tambour, que c'est la modification du déroulement des opérations électorales qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général et que, par les modalités qui les a retenues, il n'en résulte pas une méconnaissance du droit du suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l'égalité devant le suffrage. Alors là, c'est pareil, chacun se paramètres, de se dire que certains candidats auront pu passer 3 mois à faire des choses. Hein, pour se faire justement, pour partir en campagne, alors pas forcément en campagne, forcément en tant que tel, mais si ton maire t'a dit « attention à toi, méfiaté », qui s'est occupé, je sais pas, des personnes âgées, par exemple, ou qui s'en est pas occupé, d'ailleurs, ou qui t'a distribué ou pas de masque, et bien cela, finalement, peut avoir une peut avoir, ou pas d'ailleurs, une incidence sur ce second tour, parce que justement, le maire, pendant cet écart de temps assez long, a pu ou pas mettre des choses en place. Alors après, chacun sera maître de si pour vous c'est un élément qui a pu jouer ou pas. En tout cas, c'est un élément qui a rentré dans la balance et le Conseil constitutionnel a dit que non. Par contre, il risque d'avoir aussi un certain nombre de dans certaines mairies, probablement si les voix c'est un peu juste ou je ne sais quoi, les juges seront probablement appelés pour statuer sur le fait de la légalité ou pas, ou au moins la sincérité du scrutin aura été respectée ou pas. Donc, nous verrons. Dans quelques temps. Par contre, comme à chaque scrutin, alors on va parler plus vraiment maintenant des résultats en tant que tel, on nous a sorti toujours cette emphase sur ces mots qui sont un petit peu vides de sens, parce qu'en fait, on s'en sert quasiment à toutes les élections. Pour les élections européennes, c'était pareil, alors que l'échelon est plus grand. C'est le fameux scrutin local à ambition nationale. Et oui, en fait, bien évidemment, ce biais, je vais m'en moquer, mais c'est par ce biais aussi que je vous parle de ces municipales. Parce que je ne vais pas vous parler des résultats ville par ville, et surtout de ville par ville, candidat par candidate, hein, avec surtout un programme qui va derrière, parce que c'est surtout ça aussi le plus important, c'est souvent ça en fait, on fait un scrutin local, on fait ambition nationale, on va en reparler, et derrière ça cache tous les programmes. Alors je pense que si vous pouvez, vous pouvez déjà arrêter l'émission là-dessus, si vous ne souhaitez pas aller plus loin, ce sera le truc qu'il faut retenir, bien évidemment. Encore une fois, l'ambition politique cache le programme politique, tout simplement. Alors, ce qu'on peut noter quand même sur ces municipales 2020, c'est que nous avons une forte reconduction des maires sortants. Ça, déjà, c'est l'info principale à retenir. Alors moi, je vous ai mis un scrutin local que je connais, c'est là où j'aurais dû aller voter, mais j'y suis pas allé les 2 fois, hein, parce que, c'est un petit peu... je reviendrai plus loin dans l'émission, mais c'était un peu bonnet blanc blanc bonnet. Et donc à Carmo, le maire sortant s'est fait jarter. Donc en fait, le seul exemple que je vous ai mis, techniquement je vous en ai mis 2, mais l'exemple qui me parle le plus, le maire sortant s'est fait jarter. Comme quoi, rien n'est acquitte. Alors après, pour parler aussi, c'était les premières élections municipales aussi de ce grand parti, de ce magnifique parti qui est La République En Marche. C'était la première fois qu'il y avait donc un scrutin local où il pouvait justement se frotter au réel, dirons-nous, hein, pour utiliser les phrases qui font bon chic, qui font bon genre. Eh bien, en fait, ce que nous a prouvé La République En Marche avec son magnifique slogan « Ni de gauche, ni de droite », c'est qu'ils ont fait 76 alliances à droite, 33 alliances à gauche, un petit peu moins du double, et 54 désistements. C'est vrai que c'est un petit peu quelque chose d'ambivalent aussi avec cette fameuse République En Marche, et qui a eu des alliances, et bien avec, pas le Front National, hein, on va dire, mais quand même des gens qui sont quand même plutôt à droite, même pour les Républicains. C'est vraiment des gens qui sont chez les Républicains, mais ils sont quand même plutôt portés à droite. Et il y a même eu certaines alliances à gauche, par exemple avec la France Insoumise. Un petit peu what the fuck, comme ça. Donc il y avait des gens qui sont quand même portés plus à gauche qu'un parti socialiste, par exemple. Et après, donc, nous avons nos fameux désistements. Alors, c'est rigolo, parce que c'est presque la moitié entre les alliances à gauche et les alliances à droite. C'est vrai qu'il faut, faut noter que des fois, ces désistements aussi, c'était pas forcément parce que les mecs... Bon, certains, ils étaient complètement charrettes. Hein. On va pas se mentir. Mais c'était aussi, des fois, aussi pour laisser courir certains candidats, comme des candidats, surtout particulièrement, ça fait bien marcher. Ça a bien marché avec les candidats de les Républicains, surtout. Voilà. C'était surtout pour leur laisser un petit peu plus de place, justement, pour qu'ils arrivent premiers. Quoi. Alors que, les autres, ils avaient moins de chances d'y arriver. Alors, toujours dans cette optique aussi, on avait 3 partis. Il y en a un, je vais le laisser un petit peu en retrait, parce qu'il va me servir, justement, pour aller un petit peu plus loin après. Ce sera le dernier que j'aborderai. Nous avons, par exemple, la France Insoumise, qui a décidé, à peu près, grosso modo, de faire un petit peu l'impasse sur ces municipales. Ils les ont décidé, comme un accord, de faire des alliances à gauche, donc avec des divers gauches, probablement des anciens du Front de Gauche, du Parti Socialiste, de l'Europe Écologie Les Verts aussi. Donc voilà, c'est pour ça aussi, c'est un petit peu compliqué d'arriver à les noter. Je sais que sur Paris, je crois qu'ils ont eu des vraies candidatures, mais sinon, ils n'ont pas vraiment essayé de se maintenir sur un scrutin local. C'est un petit peu idiot d'ailleurs, parce que quand même, ils étaient sur une dynamique avec 2017, quand même, avec Jean-Luc Mélenchon. Il s'était passé pas mal de choses. Aux européennes, ça s'était bien cassé la gueule quand même. Hein. Faut pas, on va pas, donc quand même tout, ne pas se mentir. Mais voilà, on va dire qu'il y avait, ça aurait été pour voir aussi s'il y avait moyen de truster des parts à gauche. Et ces parts à gauche, bien évidemment, quelqu'un les a récupérées. Et mais ça, je pense que vous le savez déjà, on en parlera juste après. Alors après, il nous reste encore un parti, avant de parler du gros parti qui a fait dépercer, dirons-nous. C'est le parti de l'UPR. Alors l'UPR, si certains ne le savent pas, c'est le El Famoso parti du Frexit. Donc, pour faire sortir la France de l'Union Européenne. Et c'était la première fois qu'il se frottait à des élections locales, eux aussi. Ça n'a pas été une très grande réussite, hein, visiblement. J'ai pas très très bien regardé les chiffres dans les détails. Mais déjà, c'était pas très glorieux non plus à la présidentielle. Donc, mais voilà. Mais du coup, on se retrouve avec. C'est pareil, un petit peu le cas avec notre second parti, le dernier parti du moins qui nous intéressera, à savoir Europe Écologie Les Verts. C'est que rien qu'au sein de leur nom, au sein vraiment de la ligne principale de leur action, il y a déjà quelque chose qui ne va pas avec le local. Voilà, c'est. Déjà, l'UPR, c'est un mec qui veut faire sortir la France de l'Union Européenne. C'est vrai, déjà, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça vient foutre au municipal, quoi. Déjà. Alors, par contre, c'est vrai que pour se présenter à la présidentielle, il faut que des gens votent pour. Faut ramasser les fameuses 500 signatures, à peu près, grosso modo. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut aider, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est, de l'ambition nationale au niveau local, il y a un pas qui est quand même un peu compliqué à franchir. Et pareil pour nos amis de Europe Écologie Les Verts, donc c'est déjà, ou déjà le premier mot c'est Europe, et le second c'est écologie. Bon, moi je pense que si c'est l'Europe, tous les pays, mais géographiquement à la rigueur, si c'est l'Union Européenne, on y reviendra, c'est quand même un peu avec écologie, c'est bizarre, déjà aux Européennes c'était bizarre. Mais là, c'est vrai que du coup tu retournes avec un parti où il y a marqué Europe et tu votes pour les municipales, ouais ok. Ouais, c'est parce que c'est de la géographie, les mecs, ils pourraient, alors si on se met au strict sens de la géographie, les mecs pourraient s'appeler France Écologie Les Verts, quoi. Ça changerait absolument rien. En tout cas, bon, avant de parler de ce gros du morceau, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, qui est plus que notable d'ailleurs, c'est que, eh ben, il y a une très très forte abstention, à peu près 60%, on va schématiser, c'est tout simplement énorme. En gros, c'est comme si, grosso modo, pour ce second tour, tout simplement, il n'y a que 7 millions de Français qui sont allés voter. En fait, en tant que tel, c'est 14% du corps électoral. Alors déjà, on a l'effet aussi de cette abstention que je vous ai notée, donc de 60%, donc c'est quand même énorme. Et on a aussi le fait que, tout simplement, il y avait des communes où le maire était déjà choisi, ou la mairesse, hein, d'ailleurs, dites comme vous voulez, c'est pas un problème. Du coup, en fait, finalement, il n'y a que 14% du corps électoral qui s'est déplacé pour voter... comment ça s'appelle, à second tour des élections municipales. Donc c'est vrai que quand on nous parle de grand plébiscite, la fameuse vague verte, hein, on va y revenir après, c'est quand même un petit peu, c'est du pipeau, c'est du foutage de gueule. C'est des mots pour faire joli. Par rapport à cette abstention, j'ai noté quelques réflexions, deux du moins, c'est qu'elle est désormais choisie par le pouvoir en place comme un outil de gouvernance. En effet, c'est pas, ça sert à rien. Maintenant, je pense qu'il, comment dire, c'est un petit peu acté que certaines personnes ne vont plus du tout voter. On ne cherche plus. Je parle pas forcément du gouvernement aussi en place, je parle aussi d'énormément de partis politiques. Ils se disent, écoute, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre des gens un petit peu, c'est un petit peu se battre contre des moulins, quelque part. Ça ne sert à rien d'aller convaincre des gens qui ne veulent plus être convaincus, qu'on ne peut plus convaincre, même. Je ne sais même pas trop comment tourner cette phrase. C'est plutôt ça, vraiment. Les gens, ils partent défaitistes. Du coup, ils préfèrent soit aller draguer de nouveaux publics, avec certains effets de manche du communautarisme. Ou alors de se un petit peu se recroqueviller sur une certaine base électorale, c'est ce qu'a fait d'ailleurs la République en Marche. Hein. Pendant la présidentielle, ils sont allés un petit peu draguer les gens à gauche. Pour les européennes, ils sont allés draguer à droite. Et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve, c'est un petit peu une espèce de base de gens qui vont quand même assez voter. On essaie quand même, on essaie un petit peu de se les piquer à droite, un petit peu à gauche. Et en fait, c'est ça qui fait les rois. En fait, il reste, c'est que chi quoi, parce qu'en fait, moins d'un Français sur deux qui fait partie du corps électoral qui vote, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Il y a plus de 50% de la population qui est laissée pour compte, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Mais l'autre partie décide de tout, enfin de tout, ou presque. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut se poser faut vraiment poser notre réflexion. Après, voilà, par contre, par rapport à cette abstention, probablement que dans certaines villes ou villages, ça a été plus ou moins important. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, on notera que au juge de l'élection saisi d'un tel grief d'apprécier si le niveau de l'abstention a pu ou non altérer dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin. Ça aussi, je pense qu'on va avoir quelques aventures. Je pense qu'à Lille, on risque d'avoir quelques bisbilles, parce que ça a été un petit peu, pour Martine Aubry, ça a été un petit peu juste. Donc on verra si les procédures sont lancées ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'on y reviendra plus dans cette émission. Il va falloir se pencher très très sérieusement sur cette abstention, parce que tout simplement, c'est comment ça s'appelle ? C'est le sel du politique qui disparaît. Maintenant, passons à ce qu'on appelle le grand vainqueur de ces élections. C'était, comme dirait notre ami Delphine Bateau, la vague verte l'a emporté largement. Bien évidemment, c'était les écologistes avec, en porte-fanion, Europe Écologie Les Verts. Et maintenant, toujours Delphine Bateau avec une autre saillie, dirons-nous, qui est à la fois députée, plutôt écologiste, et qui fait partie du mouvement Génération Écologie, qui nous dit « La stratégie du front anti-écologiste auquel de nombreuses forces politiques ont eu recours a échoué face à un vote d'espérance, un vote pour le climat, pour la nature, pour des villes plus humaines. » Voilà, c'est un petit peu l'emphase, hein, c'est beau, c'est magnifique. Après, derrière, nous avons aussi la belle déclaration de notre ami Hugo Clément, hein, le El Famoso journaliste qui ne mange pas de viande, parce que c'est visiblement... c'est pour ça qu'il s'est branded. C'est incroyable et énorme vague verte partout en France. L'écologie remporte les plus grandes villes françaises et s'implante partout. Une nouvelle époque s'ouvre. Donc voilà, ça c'est le El Famoso, l'emphase. C'est joli là. On se sent plus. Sauf que quand tu fais dans les faits, donc on a à peu près en France 1064 villes de plus de 9000 habitants. Sur ce chiffre-là, nous en avons 519 pour les Républicains, 362 pour le Parti Socialiste, 24 pour Europe Écologie Les Verts, nous en avons 18 pour La République En Marche, 12 pour le Rassemblement National, et après 129 pour des étiquettes diverses et variées. Et pour aller même encore plus loin, sur ces fameuses « les plus grandes villes françaises », nous avons 236 communes en France qui ont plus de 30 000 habitants, et Europe Écologie Les Verts en a remporté 10. Encore une fois, et comme souvent, le mur du, comment ça s'appelle, du langage politique se brise la gueule, se casse la gueule même, j'ai envie de dire, ou se fait fracasser la gueule par la réalité, tout simplement. On voit que, même si c'est quand même une percée qui est notable, on va quand même pas se mentir, ils sont quand même arrivés à aller chercher certaines villes, en remplacement probablement d'un vote aussi qui est plus parti socialiste, ou un peut-être légèrement plus à gauche, mais sans plus, je pense. Ou probablement aussi par rapport à un rejet aussi de ce centre-gauche-droit, enfin plutôt centre-droit, hein, qui fait un peu la gueule avec La République En Marche. Eh ben, c'est surtout peut-être à cause de ça qu'ils ont remporté des villes. Je pense pas que ce soit forcément cette fameuse vague écologiste. C'est surtout que des fois, dans certains, surtout je pense plus dans les grandes villes, le Parti Socialiste s'est un petit peu pété la gueule. Donc peut-être qu'il a, et probablement pour moi, qu'il a remplacé un par l'autre. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir quelques réflexions là-dessus. On pourrait noter que Céline Pina nous dit « C'est un vote pour Europe Écologie Les Verts, sans risque ni engagement, dont ils n'ont pas à rendre compte. C'est un peu comme voter pour un parti animaliste. » En fait, c'est ce qu'il disait. C'est un petit peu, on vote pour les petites fleurs, on vote pour les petits trucs, c'est joli, c'est mignon. On ne se pose pas plus de questions sur l'idéologie qu'il y a là, parce que l'idéologie, elle est simple. Hein. Europe Écologie Les Verts, ils se disent à fond, on va sauver la planète, on est humaniste. C'est vrai que tu auras toujours du mal à trouver quelqu'un pour te dire quand même la planète c'est dégueulasse, être humaniste c'est quand même un peu con. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu le vote, c'est sans risque et sans engagement. Moi ce que j'appelle, c'est le vote, j'appelle ça un vote inodore, incolore et indolore, pour la majorité des cas. Après ça, quand on commence à se pencher sur les professions de foi, on peut commencer à se faire peur, mais bon, c'est pas que le cas chez eux. Je noterai aussi, on a par exemple Gilles Cavreul, qui nous disait « Les dérives anti-scientifiques de certains candidats à l'équation indigéniste de l'état-major sont à mille lieues des raisons qui ont poussé les électeurs, le peu d'électeurs d'ailleurs, note-t-il, à voter pour eux. » Ça aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on commence à se pencher sur les programmes, on a ce petit côté-là, ce petit côté clientèle, vous savez, alors qui n'est pas forcément que le fait du bobo aussi, hein, on a ce fameux indigénisme, comme on l'appelle, comme il est nommé ici, c'est un petit peu le fait de flatter... les populations musulmanes, pourrait-on dire, voilà. Alors c'est vrai que des fois, quand on le dénonce sur ce côté-là, ça fait méga raciste, mais si je vous dis, par exemple, que d'autres candidats, par exemple La République En Marche, ou Les Républicains, ont fait des petites sauteries dans des églises ou autres, peut-être que chez certains, ça les choquera moins de dire ça. En tout cas, moi, dans les deux cas, ça me choque énormément, Je pense qu'il faut toujours avoir un recul. Je pense que maintenant, l'homme est arrivé à un âge où il faudrait qu'il prenne un très grand recul par rapport à la religion. Probablement que dans certains cas, ça peut en aider certains, mais je pense que ça ne doit pas être la finalité de tout. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur avec tous ces candidats qui viennent finalement, parce qu'en fait, le vote ouvrier, pour eux, il est perdu, hein, grosso modo. Donc pour eux, la lutte des classes, c'est un truc, ça n'a peut-être même jamais existé. Donc maintenant, on va draguer d'autres minorités en leur parlant, peut-être qu'en se disant, comme eux, ils ne sont pas forcément 100% dépités par le vote qui ne change rien, eh bien, on va aller les draguer. Voilà, c'est comme ça. Après, derrière, on a Charles-Henri Gallois de l'UPR qui nous dit, ça j'ai bien aimé cette saillie aussi, il n'y a pas plus anti-écologique que l'Union Européenne, libre-échange total, casse du service public ferroviaire et énergétique, normes au rabais, ultra-protectivisme, mauvaise traçabilité alimentaire, etc. Donc c'est vrai que quand on vote pour un parti où il y a marqué Europe et qui fait toujours grand cas des élections européennes, ça peut poser question, surtout quand on voit que finalement cette Union Européenne a toujours du mal à avoir une inflexion sur elle. On dit toujours on va la changer, vous allez voir, ça va être formidable. Dans les faits, voilà, hein, moi j'attends toujours des preuves. J'espère qu'un jour quelqu'un viendra avec des vraies preuves pour me les montrer. Mais des vraies, hein, pas genre ils ont dit que le communisme et le nazisme c'était pareil, il fallait le dénoncer ou des trucs comme ça. Non, des vrais trucs plus concrets, vous voyez. Et pas la traçabilité de trucs que le fait aussi, on s'en fout. Trois quarts du temps. Des fois, ça devrait être un peu une forme de logique, mais non. Même de dessin, si j'ai envie de dire. Bon, bref. Et après, on a Gilles Casanova qui nous dit. Alors, il nous parle de ce magnifique vote d'espérance, bien évidemment, Europe Écologie Les Verts. Où, en fait, finalement, les électeurs de Macron, certains qui étaient cette espèce de centre-gauche, avaient été revenus vers son cœur de cible, ses favoris, donc à savoir le Parti Socialiste ou Europe Écologie Les Verts, parce que voilà, comme je dis, ça se juxtapose. Pas identique, mais ça se juxtapose. Mais par contre, voilà, il nous dit que mais pour la présidentielle, il faudra faire bloc contre les pauvres, et ça sera une autre affaire, et Macron, lui, du coup, pour cette affaire-là, sera bien utile. Et c'est ça aussi, voilà, que c'est assez con à dire, mais voilà, je vais y venir un petit peu après. Mais c'est vrai que les écologistes et le contrat social, dans les faits, il est inscrit, mais c'est pas forcément quelque chose qui respecte. Par exemple, notre ami Yannick Jadot, qui est à peu près, pour tenir, le président d'Europe Écologie Les Verts, avait dit qu'il n'avait strictement aucun problème à remettre le statut des fonctionnaires en question. Maintenant, je vais essayer quand même d'aller un petit peu plus loin dans les analyses au global par rapport, comme je dis, c'est un scrutin qui s'est voulu national alors qu'il ne l'était pas. C'est un petit peu des mots qu'on se donne, des trucs comme ça. Bon, bref. J'ai noté une citation de Wolfgang Streck, qui est l'écrivain du livre du temps acheté. Les perdants du tournant néolibéral ne voient plus ce qu'ils devraient attendre d'un changement des partis du gouvernement. La politique de l'absence d'alternative, propre à la globalisation, a depuis longtemps fait toucher le fond à la société. Les élections ne font plus aucune différence, particulièrement aux yeux de ceux qui auraient le plus intérêt à des changements politiques. Dans les quartiers socio-économiques défavorisés, la décrue de la participation électorale est telle que les partis renoncent de plus en plus à y faire véritablement campagne. Sans oublier que la baisse de la participation électorale aux marges inférieures de la société accentue l'évolution vers le centre des plateformes électorales des partis. Alors ça vous paraîtra probablement complexe comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Comment vraiment l'expliquer ? C'est vrai que c'est un petit peu dans la nuance. C'est vrai que la nuance, c'est ce qui nous manque en ce moment. Eh bien, en fait, si vous voulez... Par le fait de cette globalisation, les gouvernants ont toujours moins de choix. Par exemple, si Amazon essaie de s'implanter dans un pays plutôt qu'un autre, il le fait pour des raisons fiscales et des fois il fait même du chantage fiscal, tout simplement. C'est pour ça qu'aussi on a ou du chantage au coût de l'emploi. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepôts d'Amazon Allemagne qui sont en Pologne. Tout simplement parce que le coût du travail, la fiscalité est plus avantageuse pour Amazon. Donc on se met un petit peu à aller à 50 km de la frontière et l'histoire elle est réglée. Et je crois que j'en avais parlé dans une autre émission, et aux États-Unis c'est un petit peu le même cas entre les différents États des États-Unis. Si tu viens ici, je te ferai quelques avantages, tu viens ici, tu auras droit à des subventions, etc. etc. Et du coup, du fait de cette globalisation, c'est un petit peu la globalisation, c'est pas vers une amélioration, c'est vers une minoration. Du coup, nos gouvernants, ils sont obligés de faire un petit peu avec pas ce qu'ils ont, mais surtout qu'en plus, ils sous-traitent, dirons-nous, certaines parts de la souveraineté nationale. L'euro, c'est exactement ça, en fait. La partie monétaire, plus monétaire et un petit peu économique, surtout économique, voilà, de la gouvernance, en fait, elle a été déléguée à quelqu'un d'autre. Elle a été déléguée à la Banque Centrale Européenne, pour schématiser. Du coup, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre que tu peux faire ou pas, faire ou bien d'ailleurs. Hein. Après, je dis pas non plus que à partir du moment où tu es maître de ta monnaie, tu en fais toujours des choses excessivement pertinentes. Mais à partir du moment où tu ne peux pas, ben, tu ne peux pas. Tout simplement. Et tu as beau mettre la France insoumise, tu as beau mettre le Rassemblement national, tu as beau mettre la République en marche qui ressemble au PS et un petit peu aux Républicains, selon sur quelle facette tu le regardes. Eh bien, en fait, tu te retrouves avec des politiques, en fait, finalement, qui se ressemblent. Alors après, on fait ce que moi j'appelle les ajouts cosmétiques. Donc, c'est-à-dire, on vire des migrants, on fait du mariage pour tous, on fait des pistes cyclables. Donc voilà, on fait un petit peu, on s'arrange comme ça, un petit peu, c'est on dévie un petit peu. Mais bon, les mecs, personne n'arrive au gouvernement ou quelque part pour dire, moi, Amazon, je vais les bouter parce que les mecs qui font du dumping, c'est des gros connards. Personne, personne, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça, et c'est ça qu'il faut appuyer. C'est ça en fait quand il parle du fait qu'il n'y a pas d'une vraie absence d'alternative. Parce que des alternatives, si on veut, il y en a, mais je sais pas, ça parle pas aux gens, quoi. Au bout d'un moment, quand je vous dis virer Amazon, je pense que tu dis ça, je pense que tout le monde te regarde un petit peu, la plupart des gens te regarderont avec une tête un peu bizarre, quoi. Bah en fait c'est ça, c'est qu'il y a, du coup comme il n'y a pas d'alternative, les gens finalement au fur et à mesure ils s'en rendent compte, mais ils avalisent un petit peu. C'est pas ils s'en rendent compte comme une épiphanie, non. C'est qu'en fait, ils s'en rendent compte petit à petit. Ils se disent, ah, finalement, ça change pas. Ah, ça change pas. Ah, ça change pas. Ça change pas. Et au final, bah, ces gens-là, bah, ils vont plus voter. Tout simplement. Parce qu'ils n'y croient plus. Et c'est ce que j'appelle, moi, la politique du bonnet blanc, blanc bonnet. Donc en fait, on se retrouve avec. On te fait croire toujours quelque chose, mais ça n'arrive jamais. Au final. Alors, ça arrive toujours au pire, dans le pire des cas. C'est-à-dire que si les banques elles te feront douiller. Par contre, le jour où ils auront besoin de pognon, là, ils viendront te chercher, et ça, c'est à chaque fois, c'est toujours de toute façon, c'est à chaque fois, c'est les petits pauvres qui viennent, elles viendront te chercher, par contre. Mais du coup, hein, comme on est arrivé dans une société où le programme politique ne fait plus forcément foi, ce qui est dommage, d'ailleurs, après, j'ai beau critiquer, je fais pas de programme politique, donc c'est vrai que c'est compliqué, j'ai pas forcément le bon ressort, c'est vrai que j'ai un petit peu quoi ça s'appelle, le regard de l'inspecteur des travaux finis, mais bon, voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut constater. C'est que du coup, bah, comme tout n'a plus de programme politique, parce que c'est du vide, c'est le vide politique, moi j'appelle ça, c'est le vide, c'est l'absence du politique, eh bien on fait de la politique politicienne. Donc, c'est-à-dire on fait des petites critiques à droite à gauche, et surtout on sort nos plus beaux atours du spectacle. Alors c'est quoi les plus beaux atours du spectacle? C'est qu'en fait la politique se consomme comme n'importe quel bien, comme on pourrait regarder un film, comme tu pourrais t'acheter un sandwich ou aller boire une bière, eh bien tu finalement on a avalisé aussi le fait qu'on consomme du politique. C'est pour ça qu'en fait on a des débats où tout le monde s'engueule, mais en fait je pense qu'ils sont à peu près d'accord sur la plupart des choses. En fait c'est vraiment que du cosmétique pour faire joli. Et donc ces atours du spectacle finalement on les consomme. Et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec des buzz qui ont ni queue ni tête en fait. Parce qu'en fait on commente que du vide. Par exemple on avait eu notre cher ministre Brune Poirson qui nous avait dit qu'elle allait poser ses grosses couilles sur la table. Bon déjà c'est une femme. Une femme, maintenant, elle peut avoir des couilles, ok, en 2020. Je dis ça comme ça. Mais on va dire que, ouais, voilà. Et du coup, on s'est mis à parler de ça. Alors, c'est une phrase de genre, voilà, que sort comme ça. Mais on a aussi ces commentaires, moi, que j'appelle, qui font preuve de à fois de veulerie. C'est un petit peu celui-là qui a la défaite un peu amère, ou ce gagnant qui était un peu comme ils ont dit tout à l'heure, les écologistes, là, ils te regardent là. Ah, vous nous avez pas eu avec votre front anti-écolo, hein? Ah, on vous l'a bien mis à l'envers, hein, bande de mécréants. Des commentaires comme ça. Après, on a les collaborateurs serviles qui trouveront toujours moyen à se justifier de tout et de rien. Oui, mais les électeurs, en fait, n'ont pas compris notre projet. Nous n'avons pas fait assez preuve de pédagogie. Nous n'avons pas mis en avant les forces du. Comment ça s'appelle? Les forces de la Startup Nation. C'est tellement gros ce que je dis que les gens vont savoir que c'est du pipeau, quoi. Alors que mettre en branle les énergies de l'espérance, ça c'est beaucoup plus joli comme phrase. En fait, tu vois, on se retrouve qu'à commenter des choses comme ça. C'est le cosmétique, quoi. En fait, c'est comme si je t'offrais un cadeau et que quelqu'un d'autre t'offrait un autre cadeau et qu'on débattait pendant des heures. Alors déjà, tu te retrouves avec deux fois le même cadeau. Ça déjà, c'est peut-être plus ou moins utile. Mais en fait, on passerait des heures à commenter la pochette du cadeau. Voilà. C'est totalement ça, on en est là. Mais le pire, c'est que des fois, on ne relève même plus certaines choses qui font preuve de bon sens. Je vais vous parler de quelqu'un qui a eu un petit peu la main agile. Il a eu un petit peu, il a eu quelques, le fameux moment d'égarement, il en a eu même plusieurs d'ailleurs. C'est notre ami Benjamin Griveaux. Alors Benjamin Griveaux, il a eu le malheur de se finir en train de se masturber. Non, oui, ça, quelques, oh là là, quel dommage. Il est grand, il fait ce qu'il veut. Sauf que le problème, en fait, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément le fait d'un. Bon, c'est pas très élégant quand même, hein. On va dire que j'ai connu plus de gentlemen, mais bon, voilà. Et bien en fait, notre ami Benjamin Griveaux, il avait misé sur quelque chose d'assez important. C'est un truc, c'est un gimmick à droite, d'ailleurs Nicolas Sarkozy nous l'avait fait, François Fillon avait tenté de nous le faire aussi. C'est que c'est des gens qui sont là et ils nous parlent, alors ça c'est très ancré à droite, ils nous parlent de fameux les valeurs. Alors moi j'ai les valeurs, par exemple, ici pour notre ami Benjamin Griveaux, c'était les valeurs de la famille. Alors. C'est là qu'on se rend compte déjà, bon, il nous parle de sa quéquette et les valeurs de la famille, bon, c'est un petit peu un ambivalent, mais bon, quoique pour faire sa famille, il a peut-être un moment utilisé sa quéquette, je pense. Enfin bref. Mais surtout, en nous parlant de famille, en fait, ça occulte aussi tout un aspect de la politique du projet néolibéral. En fait, le projet néolibéral, c'est de parler à peu près, grosso modo, il y a plusieurs types de tendances, mais ce serait par exemple de parler à une multiplicité d'individus, mais multiplicité, je parle vraiment à des individus, plusieurs individus, mais qui seraient tous à peu près égaux. Alors, à peu près pour leur vendre ben, toujours la même merde et pour avoir des individus assez lisses, dirons-nous. Et bien, malheureusement, ce truc, la famille et ce projet néolibéral, ça se fracasse parce que justement, le projet néolibéral aussi, par certains aspects, c'est aussi la fracture de la famille, enfin, du moins de la structure familiale. Donc oui, ça paraît con comme ça. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, c'était ça, hein. C'était totalement ça. Le mec nous a fait des trucs bien néolibéral. Gagner plus pour travailler plus. C'est-à-dire que tu vois plus jamais ta famille. Hein. Mais tu bosses comme un malade. Mais derrière, il nous dit oui, mais la famille, c'est important. Ce truc, c'était complètement ambivalent. Ça, rien qui va ensemble. Mais les gens, ils y croient. Et c'est ça qui est beau, finalement. Et du coup, on se retrouve avec plein de choses. Et c'est vrai que c'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on se retrouve à rigoler des causes ou à. Ou le comment ça, non, plutôt à rigoler des conséquences et à chérir certaines conséquences, un peu, voilà, on leur fait des yeux doux, mais à jamais aucun moment on se pose les causes, quoi. Les causes ne sont jamais remises en question, quoi. C'est vrai que là, on fait du projet néolibéral à fond les meules, par exemple, je te dis ça, enfin, pour accentuer le truc avec le côté de la famille. Mais on se dit, ouais, la famille, une structure qui marche plus, on sait pas pourquoi. Et les mecs, derrière, ils font exprès tout pour la déstructurer au maximum. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est pareil, on se plaint souvent, on fait venir les migrants, ou les migrants, ils viennent. Ça dépend comment tu tournes la sauce. Eh bien, en fait, c'est pareil, c'est toujours aussi un petit projet un petit peu néolibéral derrière. Même, comment ça s'appelle, notre ami Jean Jaurès en parlait, qui disait qu'il fallait faire du protectionnisme en France, justement pour ne pas pour faire une espèce de nationalisme du bien-être et pas un internationalisme de la misère. Mais c'est un petit peu ça aussi. Les migrants, tu les prends, c'est comme tout le monde d'ailleurs, hein, et c'est ça qui fait qu'on voit pas les sujets sous le bon angle. Si tu prends tous les gens individuellement, forcément tu leur trouveras des bons côtés. Bon, il y en a certains, probablement tu n'en trouveras pas, hein, mais bref, je ne parle pas que des migrants. Alors, tu leur trouves toujours un bon côté, mais si tu réfléchis au global, que tu te dis finalement, si on fait venir, ben, et je te dis ça quand je parle de migrants, probablement que dans votre tête vous allez penser à des Africains ou à autre chose. Mais on a par exemple ceux qu'on appelle dans l'Union européenne les travailleurs détachés. Par exemple, Renault, qui a décidé de faire une certaine vague de licenciements, a eu un petit peu la larme à l'œil, s'est dit, tiens, nos amis polonais ne trouvent pas de. Ah, puis c'était ça vraiment le justificatif. Nos amis polonais ne trouvent pas d'argent. Nous allons faire venir 500 travailleurs détachés polonais, parce que nous sommes des gens au grand cœur, nous allons les faire travailler. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est finalement, on rigole, on se félicite de gens qui viennent travailler ou pas, enfin, tu gères ça comme il veut. Mais le but ultime, c'était vraiment ce néolibéralisme, justement, pour faire que les gens, eh ben, ils se retrouvent avec cette mobilité, à se détacher à droite à gauche pour aller gagner 4 copecs et faire de la concurrence aux gens qui sont ici, les locaux, qui n'ont que comme excuse soit de faire du moins 10 ans ou de rien faire, ou du coup de se laisser mourir sur le bas-côté. Et c'est ça qu'il faut vraiment faut, c'est là qu'il faut vraiment arriver à se poser les bonnes questions. Mais du coup, tout ce déstructurage amène aussi à d'autres causes de ce que j'appelle, moi, ce qui s'appelle le communautarisme. Le communautarisme, il n'est pas d'aujourd'hui, hein. Il ne faut pas croire que ce n'est qu'un fait des musulmans. C'est un fait avec les catholiques, par exemple, quand ils vont manifester contre le mariage pour tous, par exemple. C'est un fait aussi. C'est pas, faut arrêter aussi de voir les mots que sous une seule étiquette pour un seul type d'individu, dirons-nous. Eh bien, en fait, ce communautarisme aussi, il est le reflet d'un désengagement de l'État par rapport à tout ce qui est social. Alors, c'est vrai qu'en France, quand même, comme on a un gros matelas comment on appelle, pas d'aide sociale, mais enfin, matelas social plus épais que chez d'autres pays. C'est vrai que des fois, ça se voit moins, c'est moins marquant. Mais il faut quand même se dire qu'il y a certains aspects, ben voilà, c'est bon, voilà. C'est le communautarisme, en fait, c'est ça. En fait, il vient juste supplier l'État, parce que l'État, il a aussi cette forme de... Et c'est pour ça que les gens ne se reconnaissent pas, par exemple, dans l'État français ou dans... Parce qu'en fait, c'est pas tangible, l'État. L'État, tu sais qu'il est là, mais il vient pas te taper à la porte, il vient pas te faire la causette, et surtout, d'autant plus que moins t'en fais la formation, et moins tu en sais. Par exemple, il y a aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de service militaire, il y a plus de... Alors, je dis pas que le service militaire, c'est le parangon, mais il y a moins de tangibilité par rapport à l'État. Et par conséquent, le communautarisme, il vient que suppléer quelque chose qui n'a pas de présence, en fait. Et probablement, tout ça, que ça fait un petit peu partie aussi de ces faits. Pourquoi les gens, ils vont pas voter? Parce que finalement, s'ils se retrouvent plus proches de leurs voisins que de je sais pas quoi, pourquoi ils iraient voter pour un maire ou pour un président? Parce que finalement, il a pas de tangibilité, quoi. On voit qu'il fait des trucs, mais on sait pas trop. Et puis après, il y a d'autres aspects qui se mettent derrière, quoi. Quand tu vois des gens comme Balkany qui te disent « Oui, je suis malade, je suis à l'article de la mort, sortez-moi de tôle !» Et que le mec, il sort de tôle et allez, qui te fait des dabs à droite à gauche, t'es choqué, quoi. Tu te dis « Putain, mais les mecs, toi, tu ferais un dixième, même pas un dixième, tu ferais moins que ça, mais tu serais méga en tôle, quoi. Les mecs, ils auraient fait débarquer les GIGN. » Tout le monde aurait débarqué pour te foutre en tôle direct, tous les juges ils t'auraient agressé, quoi. Et non, nickel. Alors c'est vrai que ça, pareil, ça ramène aussi encore une couche supplémentaire de défiance par rapport aux politiques. Parce que pour une chose égale, les citoyens ne sont pas égaux. Qu'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour nous feront noir ou blanc. Attention, c'est raciste. dit comme ça. Mais c'est ça l'idée, quoi. Au final. Et après, voilà, derrière aussi arrive le fameux moment que vous entendiez tous, la fameuse novlangue politique, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce fait un petit peu de mettre du décorum pour faire joli, avec Europe Écologie Les Verts. Tout à l'heure, on en a eu, comment ça s'appelle, un bel exemple, mais avec le fameux vote d'espérance, le mot qui veut rien dire. Genre, les gens, ils votent, c'est pour ça que ça veut vraiment rien dire. Comme si les gens, ils votaient pour être dépités, quoi. Mais non, ça veut rien dire, les gens, ils votent pas pour être dépités. Forcément que les gens ils votent toujours pour une espèce d'espoir, pour une espèce d'espérance, une espèce de une sorte de croyance. C'est débile. Après c'est la vague verte qui submerge. Vous voyez, c'est un petit peu les grands mots qu'on se donne pour faire joli, quoi. Hein, pour faire joli. Et après, il y a d'autres mots comme ça politique, parce que j'ai pris eux, mais je sais qu'à la mairie d'Albi, on essaye de casser un petit peu ce mythe, un petit peu, vous savez, les gens de gauche, c'est des gens un petit peu, ouais, ils sont pleins d'imagination, mais c'est pas tenable. Et là, c'est là qu'on sort le fameux mot qui justifie toutes les politiques depuis le tournant de la rigueur, mais même avant le tournant de la rigueur de François Mitterrand, c'est le fameux mot, le pragmatisme. Ça, c'est le pire mot de tous les temps. Je crois que pour moi, c'est un mot qui devrait être banni. Donc, quand on est quelqu'un... Tu vois, c'est les gens, ils promettent des choses, tu vois, c'est pas bien, tu vois, ils promettent qu'on aura des meilleurs parcours santé, qu'on pourra aller travailler en vélo, qu'on pourra, mieux profiter des commerces en ville, qu'on aura une qualité de l'air un peu meilleure. Non, tout ça, c'est pas bien. Parce que nous savons faire preuve de pragmatisme. Et le pragmatisme, il n'y a que ça de vrai. Et c'est ça qui est particulier, du coup. Parce que au bout d'un moment, t'as pas beaucoup d'alternatives, parce que justement, t'es dessaisi de certaines choses, au bout d'un moment, tous les territoires sont... C'est ça, c'est la concurrence de tous contre tout. Donc au bout d'un moment, t'as pas non plus des marges de manœuvre énormes. Mais du coup, le pragmatisme, hein, de se dire, il faut que tout soit bien calculé, tout soit bien fait, mais finalement, s'il y a très peu d'alternatives, et finalement, toujours ce pragmatisme, déjà, je pense que le pragmatisme de base, ça veut dire qu'un petit peu tout se ressemble, en fait, c'est vraiment du même au même, quoi. C'est hallucinant. Et on sort ça, tranquille, pour discréditer les autres partis qui concourent à la mairie. Franchement, je ne sais plus quoi dire. C'est n'importe quoi. Mais faut pas croire, on en est tellement arrivé à un point où qu'on s'appelle le projet politique, c'est vraiment une façade, mais c'est vraiment pour faire joli. C'est vraiment du décorum, quoi. On en est arrivé au point où on a ce qu'on appelle les agitpropres. Les agitpropres, c'est les agitateurs, un petit peu, qu'on avait chez les communistes, tout ça, un petit peu pour haranguer la foule, un petit peu, on va dire. Et finalement, c'est ce qui s'est passé à Montpellier. À Montpellier, ça a été le... Alors, c'était... Je vous ai mis un article, il faut aller le lire. On a eu notre ami le milliardaire Mohamed Altrad. On a eu Rémi Gaillard, el famoso rigolo des internets, qui se sont présentés à la mairie. C'est un petit peu... Mais c'est vraiment... C'est vrai que ça en arrive à un point, ça devient débile, quoi. C'est un petit peu... Il n'y a pas de projet... Enfin, si, il y a un projet politique, parce que les mecs, ils font quand même un programme. Ils font... Mais c'est vrai que... c'est pour les présidentielles, c'est pareil. C'est un petit peu tout le monde se présente. Faire joli, quoi. C'est un petit peu, je n'ai pas forcément de projet politique, mais voilà, ça fait partie un petit peu du spectacle. Voilà, c'est là, j'arrive, je débarque. Ben c'est ça, à la mairie de Montpellier, il n'y a eu que du spectacle. Alors maintenant, on verra dans les faits ce qui se passe, mais ce n'était que du spectacle. Le projet politique, moi, à chaque fois que je le suivais, alors c'est vrai que je rate pas forcément tout dans les détails, parce que ça, en fait, le projet politique, il faut vraiment aller le chercher, quoi. Tu vas pas le chercher toi-même, on te le ramène pas sous la figure. Et c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est parce qu'on a, ce que d'appelle, je vous en avais déjà parlé, la propagande staff. La propagande staff, c'est en fait, c'est les organes de propagande, quoi. Grosso modo, c'est un petit peu Le Monde. Je vous ai mis un article aussi, Le Monde nous parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, genre, genre, il y a sur 130, sur 230 grandes villes, il n'y en a que 10, Europe, écologie, les verts. Mais les mecs, ils te font quand même un article, il est marqué la vague verte a tout submergé, patin couffin, le projet politique d'Harris, ça me parle, mais rikiki, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ridicule. Mais voilà, et tout ça, ça fait partie, tout ça, finalement, au fur et à mesure, ça alimente une défiance par rapport aux politiques, parce qu'on se rend compte que. C'est un petit peu la quadrature du cercle en fait. On se rend compte que comme ça marche pas, ça marche pas. Alors on va les draguer en faisant un petit peu du sensationnalisme, du buzz et ainsi de suite. Et en fait, ça déparait les gens. Mais c'est fou quoi. Alors j'espère que voilà, vous arrivez à suivre parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Mais le but c'est vraiment de faire vraiment réfléchir, de se dire que finalement les problématiques qu'on a sous le nez, c'est pas forcément les problématiques les plus prégnantes. C'est forcément. Faut toujours gratter un peu plus pour voir derrière ce qu'il y a derrière le vernis. Pour justement arriver à comprendre que, ah, en fait, quand le mec il nous dit ça, en fait, c'est vraiment parce qu'il peut pas faire ceci ou justement parce qu'il va faire cela, et pour nous faire, pour faire sentir le sens du spectacle, j'ai envie de dire. Mais, bien évidemment, hein, avec cette fameuse vague verte, ça sera le dernier point de cette émission, il y avait le fameux retournement de veste, pas académique, mais un petit peu olé-olé, quoi, de notre ami Emmanuel Macron, qui dit « Je le partage de placer l'écologie au cœur du modèle économique ». Bien évidemment, et ça c'était le lundi juste après les élections du second tour, notre ami Emmanuel Macron, lors de sa grande convention sur l'écologie citoyenne, je sais plus ce que c'est, bon, enfin bref, les noms ronflants pour faire joli, il nous avait bien évidemment essayé de récupérer le vote écolo, parce que bon, quand même, nous on s'est fait preuve du fameux pragmatisme, hein, parce que les écolos, tu comprends, à faire de la bicyclette, ce ne sont pas des gens pragmatiques, donc il essaie de nous récupérer, ouais, il fait la drague du vote écolo. Alors, il sait qu'en faisant ça, il va aussi chercher un petit peu ce centre gauche. Et je fais le geste chez moi en plus, je vais à gauche et tout, là, pour justement aller chercher ces voix Europe Écologie Les Verts, parce que c'est rarement des gens qui votent à l'extrême gauche. Il y en a quelques-uns, mais c'est rarement des gens qui votent à l'extrême gauche. Il y en a quelques-uns quand même dans le tas. Et aussi, je pense, au fur et à mesure, je pense qu'il comme le langage écologiste commence quand même à pousser dans la société, bon, faut pas se mentir, il y a quand même des très très gros enjeux, c'est même, je pense, l'enjeu majeur, mais bon, ça, je pense, on y reviendra une autre fois. Je pense qu'il a aussi un coup d'avance dans sa tête, alors je pense pas que ce soit, je pense pas que les gens le voient encore, mais je pense qu'au fur et à mesure, le centre droit va se poser des questions aussi sur l'écologie, alors je pense qu'il y aura toujours des frictions entre est-ce qu'il faut faire des éoliennes ou du je sais pas quoi. Et je pense qu'il y a maintenant, je pense que le centre droit va au fur et à mesure se faire une identité écologiste. Je sais qu'il y a déjà des partis écologistes de droite. Alors, dit comme ça, je pense que ça fera rire certains, mais il y en a. Alors, pas énormément, certes, mais voilà, il commence déjà à avoir une poussée de réflexion là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que peut-être aussi il va draguer ce centre un peu large. C'est ce que disait tout à l'heure Wolfgang Streck. C'est que, comme la base se rétrécit, il essaie justement d'aller chercher un petit peu des deux côtés, ce qu'il a su faire avec tout de même un certain brio. Il est allé chercher des votes à gauche pour la présidentielle et du vote à droite après pour les, européennes. Ça prouve bien que quand même cette base, elle est mouvante. Et comme nous disait tout à l'heure aussi Gilles Casanova, malheureusement, et ça aussi c'est, c'est le malheur du centre, c'est que pour lutter contre les pauvres, il y a du monde. Oui. Tu comprends bien, ça c'était un peu ce fameux sketch de Groland avec ce pauvre qui pollue parce qu'il prend la voiture pour aller travailler. Le fameux gilet jaune, tu vois, j'ai envie de dire. Eh ben c'est ça en fait. C'est qu'en fait, quelque part, parce que finalement derrière c'est écologie, mais derrière c'est écologie du centre, hein, je te parle pas d'une écologie bien plus à gauche, hein, par exemple. Eh bien en fait, c'est ce que j'appelle moi le fauné du libéralisme, tout simplement, ou du néolibéralisme, que je vous dis tout à l'heure, et de son copain, ils sont toujours en bande, hein, ensemble, c'est notre ami le Capital. Eh oui, en effet, comme je te dis tout à l'heure, Yannick Jadot disait oh, on peut remettre en place le statut des fonctionnaires. Pourquoi, comment, dans quel but, c'est pour ça que des fois, il faut aller plus loin dans les analyses. Pourquoi tout ça? Et c'est vrai, c'est là que tu te dis ah ouais, mais en fait, cette écologie-là, c'est ce qu'on appelle, c'est le mythe, moi, ce que j'appelle de l'économie verte. Hein. En fait, c'est l'économie du faire et refaire. tout simplement. On a une centrale nucléaire qui marche, mais qui pollue. Qui pollue, hein, dirons-nous, du moins qui feront des déchets radioactifs et qui peut exploser, peut-être, dans certains cas. Mais du moins, au moment où je t'en parle de cette centrale, elle marche très bien. Elle a été faite, elle tient debout, il n'y a pas de fuite avérée, on pourrait aller plus loin, mais voilà. Par exemple, il coûte très cher. Aussi, t'as l'impression que je brode, mais en fait, finalement, je me rends compte de toute la supercherie au moment où je te le dis. Tu vois. Et alors, cette centrale, elle coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Cette centrale, on va en faire deux choses. Déjà, on va la démanteler, ce qui créera de l'économie, qui créera de l'argent. Alors, je sais pas où c'est qu'on va les mettre, ces déchets, mais bon, on en fera quelque chose. C'est pas bien grave. Et surtout, derrière, il va falloir mettre quelque chose pour la remplacer. Parce que tu comprends bien, quand même, ça fait du boulot de la démanteler, mais si ça pouvait générer aussi de l'emploi, générer de la croissance, de faire autre chose pour remplacer cette centrale, ça ne serait pas bien, par exemple, de faire, je sais pas, de l'éolien ou de bétonner pour faire du voltaïque. Oh, mais c'est intéressant, ça. Eh bien, c'est ça, moi, surtout ça. C'est que c'est, en fait, souvent, cette écologie-là, c'est l'économie du faire et refaire. En fait, on ne te parle pas de comme une certaine forme de minimalisme, coucou à toi, mon ami toucheux, ou finalement, de quelque chose que tu as, tu chercherais soit à le garder, ça peut être une solution, ou de le substituer, mais presque de l'oblitérer, presque, j'ai envie de dire, mais vraiment au sens plus profond, tu vois, c'est vraiment la chose que tu as, tu n'en veux plus du tout, et tu ne souhaites pas la remplacer du tout. Ce besoin que tu en as, par exemple, je sais pas, tu avais deux voitures, tu te dis, je vais faire avec qu'une. Tu te dis, j'ai une grande maison, est-ce que du coup, alors, c'est vrai que là, c'est un petit peu particulier, peut-être comme explication, est-ce que du coup, je peux pas faire avec qu'une maison plus petite, par exemple, pour avoir moins de biens dedans. Je te dis n'importe quoi, ou je te dis, tu as un ordinateur qui marchait, tu as deux ordinateurs, et tu te dis, finalement, si le jour il tombe en panne, est-ce que j'ai besoin de remplacer cet ordinateur, par exemple. Ben en fait, si tu veux, cette écologie, c'est en fait l'écologie du faire et refaire. On remplace, tout simplement. On prend quelque chose, on remplace. On te dit, non, finalement, c'est pas une voiture thermique qu'il vous faut, monsieur, c'est une voiture électrique. Alors, en fait, le problème, on fait que le reporter sur autre chose. Alors que ta voiture thermique, elle est déjà faite, en fait. Ton produit, il est déjà une matérialité, on n'a pas besoin de la refaire. Certes, elle pollue, mais elle est déjà là, quoi. Ta voiture, elle est déjà là, on a fait le plus gros du boulot, quoi. On l'a construit. On pourrait même l'entretenir, à la rigueur. Pour qu'elle vive le plus longtemps possible, je te dis ça n'importe quoi, même si derrière elle pollue parce qu'elle fait du gaz à effet de serre, ou... Eh non, en fait, on va cette voiture-là, on va la détruire, donc on va la ramener ailleurs, on va la recycler à un pourcentage qui sera toujours ridicule, j'ai envie de dire. Et on va te proposer une voiture électrique dont on ne sait toujours pas forcément plus sur son recyclage, mais écoute, on t'a revenu autre chose, ça fait de la croissance et c'est joli. Et c'est ça aussi que je voulais pointer du doigt, qui sera au global et qu'il faudra vous rappeler, que souvent, quand on te propose une alternative à quelque chose, souvent, eh ben, finalement, c'est juste pour te faire te revendre autre chose. Tout simplement, ce n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, cette espèce d'idée du minimalisme, où si tu as quelque chose qui tombe en panne, ou que tu ne veux plus, eh ben, finalement, tu ne le remplaces pas. Hein, c'est comme si tu avais 150 t-shirts, au bout d'un moment, si pour racheter 50 mêmes t-shirts, mais en coton bio-véritable, qui a été fait à la main, en respectant les gens, bah en fait, t'avais 50 t-shirts, et ben tu les balardes, ou tu les donnes à quelqu'un, bon bref, t'as fait quelque chose, et t'en reprends 50 d'autres. Pourquoi, comment, quels sont ces réseaux? C'est probablement ces questions-là qu'il faut... Et ça, j'y reviendrai sur toutes ces questions écologistes, parce que justement, voilà, c'est ça que j'essaie de pointer du doigt, c'est que des fois, on a... En fait, c'est de la fausse écologie, quoi. On reprend pour refaire. Mais attention, c'est bio, c'est vertueux. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur ces municipales. On y reviendra parce que c'est beaucoup de problématiques qui sont posées et qui sont globales à toute la société. Donc ben voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. C'était toujours Gandalf81, @Gandalf81 sur Twitter si vous me cherchez. Les épisodes de Flux URSS, il faut abonnez-vous au Flux hein, si vous voulez recevoir quelques notifications quand ça sort, parce que on va dire que c'est un petit peu aléatoire, hein. Je sors quand j'ai les idées, quand je trouve les sujets, quand je les ai bien bossés. Alors là, celui-là, je l'ai plutôt bien bossé. Bon, ça a été un petit peu foutraque dans la réalisation, mais bon, voilà, j'espère qu'au moins vous en aurez retiré quelque chose de palpable, quelque chose que vous aurez de compréhensible, et ce sera la seule chose à retenir. Donc voilà, je vous renouvelle une fois mes remerciements pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt dans Flux URSS. Ciao, ciao. USSR.